Neptune FM sur la côte vendéenne. Neptune FM. Il est 21h. Neptune FM. Écoutez et découvrez. Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ciao, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler du grand artiste Kageyama Hironobu. On parlera ensuite de trois mangas des éditions Soleil avec la chronique du volume 11 de Between You and Me, la présentation de Dans le sens du vent Nord-Nord-Ouest et alors la chronique du volume 33 de Higanjima. On aura ensuite un petit point sur les sorties manga de la semaine. On parlera d'un petit point culture au Japon avec une créature du folklore qui revient à la mode avec la pandémie. On aura ensuite une petite actualité, cette fois-ci au Japon, avec une aide de 169 € qui est donnée aux voyageurs pour relancer le tourisme. Ne vous enflammez pas, c'est juste pour les Japonais. Hein. Et on finira avec une petite news musicale avec le single numérique qui va bientôt sortir pour Nocturnal Bloodlust. Voilà. On va s'écouter tout de suite la première chanson de l'émission, c'est Thank You de La Hongfong, et on reviendra juste après pour parler de l'artiste Kageyama Hironobu.
So
La Hong Fong avec la chanson Thank You. On passe maintenant à l'artiste de la semaine. On va parler de Kageyama Hironobu, ou aussi appelé tout simplement Kage. Alors c'est un seiyuu et chanteur japonais de pop rock qui est né le 18 février 1961. Il est donc âgé de 59 ans. Il est en activité depuis 1977 et il fait partie des groupes Lazy au chant depuis 1977, Gem Project au chant et Triforce au chant depuis 2002. Né à Osaka le 18 février 1961, Hironobu Kageyama a déjà plus de 800 chansons à son actif. Il est l'un des plus grands noms de l'anime song. Donc réputé pour sa voix reconnaissable entre mille, Kage s'étend aussi sur une grande variété de catégories musicales, de la mélodie romantique au rock et au metal. Il ne se limite pas à un seul style. Il commence sa carrière à l'âge de 16 ans avec 4 autres jeunes pour former en 1977 le groupe Lazy. Le groupe devient populaire dans tout le Japon grâce à leur premier tube Hey I Love You. À leur début, le groupe s'oriente sur un style de musique assez light avec des sons comparables aux Beatles ou à Deep Purple. En dépit d'un succès notoire, Lazy décide de se renouveler et change radicalement de style en passant au hardcore heavy metal. Voilà, ça change des Beatles. Lorsque le groupe se sépare, Hironobu Kageyama décide de poursuivre sa carrière en solo. Donc il entame cette carrière en 1981 et il lance cette année-là ses premiers singles. Ses premiers pas dans le secteur de l'anime song se font en 1984 avec la chanson Stardust Memory, le générique de début de l'anime Mekasho Jiku Gidan Southern Cross. Kageyama est ensuite appelé par les producteurs de Nippon Columbia pour chanter les génériques de Tokusatsu Dengeki Sentai Changeman. À partir de là, tout va très vite. Kageyama devient rapidement populaire chez les fans d'Anisong et enregistre de plus en plus de génériques de manga et de Tokusatsu. Tout juste un an après la sortie de Soldier Dream, en 1989, c'est la révélation. Le classique Shala et Shala, premier opening de l'anime Dragon Ball Z, débarque dans tout le Japon. À sa sortie, le tube fait bouger tout le Japon, devenant rapidement le single le plus vendu de l'année. En septembre 1997, il est aux côtés de Masaki Endo, le choriste attitré de Kageyama qui à l'époque était encore inconnu du public, pour former le duo Kotetsu Kyodai, littéralement les frères de métal. Ils enregistrent ensemble l'album Robot Metal ZZZ, dont la caractéristique était de reprendre en medley d'anciennes chansons d'anime et de tokusatsu, le tout en une version heavy metal. Le duo remporte un succès considérable au Japon, allant même jusqu'à se déguiser en super-héros pour la réalisation d'un clip. Les deux frères d'acier gagnent ensuite en renommée et ont même droit à une histoire sur leurs aventures via un quotidien. Le fait le plus marquant de l'année 1998, c'est le retour triomphal du groupe Lazy. Après 17 ans d'absence sur la scène musicale, les 5 membres du groupe se rejoignent donc pour former à nouveau ce groupe tant adulé autrefois. À partir de là, Kageyama continue dans sa lancée. Très productif, son activité devient de plus en plus intense. Ainsi, il chante avec Masaki Endo en tant que membre de Kotetsu Kyodai. Il poursuit toujours sa carrière solo, il est présent au sein du groupe Lazy et il participe au méga concert Super Robot Spirits, affichant les plus grands noms de l'anime song. Cette première réunion de vétérans d'Anison préfigurera une longue série de concerts 100% Super Robot dans les années à venir. Puis nous arrivons à l'aube de l'année 2000, période compliquée pour le genre anime song, qui est boudé par le public et se fait balayer par la vague J-pop. Bien que très en vogue, les groupes J-pop qui étaient retenus pour faire quelques génériques n'allaient pas dans le sens de l'anime. Bien souvent, il n'y avait aucun lien entre l'anime et la chanson. C'est donc pour contrer ce phénomène qu'Hironobu Kageyama et 4 autres vétérans de l'anime Songs, donc Ichiro Mizuki, Rika Matsumoto, Masaki Endo et Eizo Sakamoto, décident de créer le Gem Project. En plus d'être le leader du Gem, Kageyama est aussi à l'origine de la plupart des hits du groupe. Voilà, donc côté discographie, on a 5 albums. Le premier, I Mean You, qui est sorti le 26 avril 2000, et le dernier, EOR, qui est sorti le 25 juillet 2017. On a un mini-album, Super Survivor, qui est sorti le 23 juillet 2008. Un album de reprise, Darega Cover Yanen Anison Show, qui est sorti le 14 février 2018. On a aussi 5 best albums. Le premier, The Best of Hironobu Kageyama, qui est sorti le 25 février 1989, et le dernier, Kage-chan Pak Kimito Boku no Daikoshin, qui est sorti le 14 février 2018. Il a aussi sorti 59 singles, rien que ça. Le premier, Shala et Shala Detekoi Tobikiri Zenkai Power, qui est sorti le 1er mai 1989, et Yosoro Oshino Umi wo Koete, qui est sorti le 12 juin 2013. On a aussi 5 long play. Donc c'est, le premier, c'est Broken Heart, qui est sorti le 1er décembre 1981, et le dernier, Born Again, qui est sorti le 21 juin 1985. Il a aussi fait 13 vinyles. Eh oui, ça remonte déjà un petit peu. Le premier, Kyowo Ikkyo, qui est sorti le 1er octobre 1981, et le dernier, Soldier Dream, qui est sorti le 1er mai 1988. Alors, il a ensuite participé à 215 OST. Bon, je vous avoue que je n'ai pas eu le courage de tous vous les lister. Donc, on compte entre autres, j'ai pris vraiment les 4 plus connus, hein. Les Chevaliers du Zodiac en 1984, Dragon Ball Z bien sûr en 90, Street Fighter 2 en 1993 et plus récemment One Punch Man en 2016. On compte aussi 72 génériques d'animés, 10 génériques de jeux vidéo, 3 génériques de drama et 1 générique de film. Il a également participé à l'OST de l'animé Shampoo Oji et il a aussi fait le doublage du personnage de Zaruba dans la série Garo. Autant dire que ce monsieur a une vie très remplie. Voilà, alors on va pouvoir tout de suite écouter le grand tube de Kageyama Hironobu, Shala et Shala, qui a servi de premier opening pour l'animé Dragon Ball Z, et on reviendra juste après pour la chronique du volume 11 de Between You and Me. Fly away, fly away. 体中に広がるパノラマ. 駆け蹴られた地球が起こって 火山を爆発させる. Donc c'était Gem Project avec la chanson The Hero Ikareru Kobushi ni Iwo Tsukero, qui a servi de premier opening pour l'anime One Punch Man. On change d'ambiance, on part dans un shoujo avec la chronique du volume 11 de Between You and Me. Donc je rappelle que c'est un shoujo de genre comédie, romance, vie scolaire qui a été écrit par Aikawa Saki et prépublié dans le Margaret. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 11 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue aux éditions Soleil avec également 11 tomes. Donc ce volume 11 est sorti le 29 janvier 2020 au prix de 6,99€. Le résumé de ce tome, après une fête de l'école houleuse, Kaede et Shizuku prennent une nouvelle fois conscience de leurs sentiments. C'est alors que Nishina annonce de but en blanc à cette dernière qu'elle compte vraiment pour lui. Malheureusement, Kaede les surprend et se fait de fausses idées. Bien que son attitude glaciale la blesse, Shizuku se décide à lui faire une dernière déclaration et fonce chez lui. Comment se terminera leur relation aussi compliquée qu'intense ? Alors que nos deux héros avaient enfin commencé à se rapprocher après leur rupture, de nouveaux quiproquos vont venir créer des tensions entre eux deux. Je vais y arriver. En premier lieu, Shizuku se fait passer malgré elle pour la petite amie de Nishina pour lui rendre service. En effet, celui-ci se fait plus ou moins harceler par des filles de son collège qui sont amoureuses de lui. Elle leur dit alors qu'elle tient beaucoup à lui et évidemment Kaede en est témoin. Ensuite, c'est au tour de Shizuku de surprendre le garçon qu'elle aime toujours en train de dire qu'il ne ressent plus rien pour elle. Saki Aikawa use encore de ce manquement de communication et de ce problème de timing pour pimenter son intrigue et contrecarrer leur rapprochement, mais ça a quand même un goût de réchauffé. De plus, on notera que même si la mangaka a recours à cette astuce pour mettre des bâtons dans les roues de ses personnages, le dénouement est finalement très rapide d'un point de vue temporel, quelques jours à peine. Et détail pour le moins problématique, on peut résumer sur ce dernier tome en à peine quelques phrases, sans omettre des parties du scénario, pour aboutir à une fin qui laisse à désirer et nous laisse surtout un arrière-goût d'inachevé. Sans compter que l'élément qui finit de les rapprocher manque d'originalité, c'est un peu gros. Au final, certes, la réconciliation pour le happy end est là, mais en connaissant les deux personnages, leur histoire est loin d'être réglée et il leur reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Shizuku ne ressent rien à part de l'amitié pour Nishina, pourtant elle le laisse lui tenir la main pendant leur sortie. Et ça ne loupe pas, son comportement tendancieux encourage le collégien à se déclarer de nouveau. Heureusement, elle va finalement réagir et s'exprimer clairement avec lui. Elle va même être actrice pour une fois et prendre sur elle afin de faire avancer les choses avec Kaede. Toutefois, bien qu'on apprécie ses rares petits sursauts, son évolution aurait pu être davantage aboutie, d'autant plus en considérant le nombre de tomes et les obstacles auxquels elle a été confrontée. D'ailleurs, un peu plus tard, elle est honnête avec Kaede en lui disant que Nishina était présent, mais uniquement par maladresse et non par désir de ne plus rien lui cacher pour de mauvaises raisons. Pour conclure, Between You and Me est un shoujo très classique. Saki Aikawa n'hésite pas à surfer sur les clichés du genre pour mener son intrigue. Son héroïne s'est révélée être très passive et ses personnages ne sont pas très poussés. De plus, il est dommage que la qualité des tomes et le rythme soient en dents de scie. Si certains sont denses, d'autres nous laissent au même point ou presque une fois arrivés à la fin du volume. En bref, une romance certes distrayante, mais loin d'être un incontournable. Voilà, si ça vous dit quand même de jeter un œil, parce que moi, j'ai quand même bien aimé, c'était un petit moment sympathique. Vous pourrez retrouver donc la série Between You and Me en 11 tomes aux éditions Soleil. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Happy Night de Lazy Gun Brisky, et on viendra juste après pour la présentation du manga Dans le sens du vent Nord-Nord-Ouest.
Come on and be the
Donc c'était Lesigen Brisky avec la chanson Happy Night. On passe maintenant à la présentation du manga Dans le sens du vent nord-nord-ouest, du titre original Oku Okusei ni Kumoto Ike. Alors c'est un seinen de genre aventure, mystère, tranche de vie qui a été écrit par Irie Aki et prépublié dans le Arta. La version japonaise est parue en 2016 aux éditions Hunter Brain avec un total de 4 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue le 12 février 2020 aux éditions Soleil avec pour le moment un seul tome de sortie. Vous pourrez retrouver Dans le sens du vent nord-nord-ouest dans le commerce pour un prix de 7,99€. L'âge conseillé pour le lire est de 14 ans et plus et il n'existe pas d'adaptation en animé. Au milieu des fjords et des plaines arides, un jeune homme enquête pour connaître la vérité sur un drame familial. Entre la fidélité au sang ou celle à ses convictions, il devra faire un choix. Régulièrement cité parmi les meilleurs mangas publiés récemment au Japon par la presse, les lecteurs et les libraires, Dans le sens du vent nord-nord-ouest interpelle par son dessin très occidental, ses lignes allongées et ses paysages islandais oniriques. Une signature graphique unique au service d'une aventure haletante. Donc, Kei Miyama, un détective indépendant de 17 ans, vit avec son grand-père français en Islande. Ça fait un sacré cocktail déjà. Comme les autres hommes de sa famille, il dispose d'un pouvoir atypique. Le sien consiste à pouvoir communiquer avec les appareils électriques et les automobiles. Sa vie bascule soudainement lorsqu'un détective japonais, en congé sur l'île, lui annonce l'assassinat de son oncle et de sa tante par le propre frère de Kei. Qui croire, convaincu de l'innocence de ce dernier, le jeune détective mènera alors l'enquête. Voilà, donc la série Dans le sens du vent nord-nord-ouest à retrouver aux éditions Soleil. On va s'écouter tout de suite une autre chanson. On part dans la romance sud-coréenne à Bâle. On va s'écouter Lee Ji-ye avec la chanson A Heart Cannot Be Hidden et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine. c'était Lidie avec A Heart Cannot Be Hidden. Voilà, on passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Alors, on aura des sorties mercredi 3 juin avec aux éditions Soleil le volume 1 de Anonyme, le volume 14 de Black Prince and White Prince, le volume 2 de Libraire jusqu'à l'os et le volume 4 de Teacher Killer. Aux éditions Glénat, on aura la sortie du volume 5 de Apocymes, la planète des marionnettes et le volume 3 de Parasite, la réédition 2020. Aux éditions Kazé, on aura la sortie du volume 24 de Blue Exorcist, le volume 1 de Cold Game, le volume 2 de Chainsaw Man, le volume 8 de Hell's Paradise et le volume 8 de Jagran, avec 40 000 A. Aux éditions Pika, on aura la sortie du volume 2 de Drifting Dragons, le volume 1 de Fairy Tail City Hero et les volumes 1 et 2 de Shibuya L. Aux éditions Nobidobi, on aura le volume 4 de Luna Kiss et le volume 5 de Quand Takagi me taquine. Aux éditions Panini, on aura le volume 7 de Prison Lab et alors on aura les volumes 1 à 15 de la réédition de Trinity 7. Et aux éditions Casterman, on aura le volume 4 de Sky Wars. Pour jeudi 4 juin, aux éditions Kiun, on aura les volumes 1 et 2 de Act Age, le volume 3 de Jujutsu Kaisen et le volume 23 de My Hero Academia. Aux éditions Akata, on aura le volume 5 de Bless You, qui sera le dernier tome de la série, le volume 2 de Don't Fake Your Smile, le volume 4 de Canon au bout du monde et le volume 2 de Samurai Comeback. Et aux éditions Kurokawa, ça sera la sortie du volume 3 de Fullmetal Alchemist, la Perfect Edition. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 5 juin avec aux éditions Kana 5 Minutes Forward, le volume 1, le volume 4 de Apprenti Criminel, le volume 18 de Sky High Survival et le volume 8 de Tales of Wedding Rings. Aux éditions Ototo pour finir, on aura le volume 15 de Bungo Stray Dogs, le volume 3 de La Petite Faiseuse de Livres Ascendance of a Bookworm, le volume 11 de Monster Musume Everyday Life with Monster Girls, le volume 2 de Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, qui sera le dernier tome de la série, et on aura enfin le volume 3 de Sword Art Online Project Alicization. Voilà. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Lee Jin Sung qui nous interprète Do You. Et on viendra juste après pour parler culture au Japon.
Sorry, 마저 난 설레게 한 단 한
C'était Lee Jin Sung avec la chanson Do You. On passe maintenant à la partie culture. Début mars, la bibliothèque universitaire de Kyoto, donc dans l'ouest du Japon, a publié sur Twitter une illustration datée de 1846 du yokai. Donc c'est le nom générique des créatures surnaturelles du folklore nippon. Donc du yokai Amabi. Amabié. Alors, accompagnant son image, un texte de l'époque raconte comment Amabié serait apparu devant un responsable de la région de Kumamoto, au sud-ouest du Japon, pour l'avertir de la propagation d'une maladie infectieuse. La créature lui aurait demandé de dessiner son portrait et de le montrer aux gens pour les protéger du virus, narrait encore ce texte. Le tweet de la bibliothèque de Kyoto est devenu viral et de nombreux artistes, amateurs ou non, se sont mis à dessiner Amabié et à publier leurs œuvres sur les réseaux sociaux sous le hashtag Amabié Challenge. Le folklore japonais abonde de yokai, des esprits tantôt malfaisants, tantôt bienveillants envers les humains. Beaucoup sont aujourd'hui oubliés, mais ils imprègnent toujours largement la culture populaire japonaise contemporaine, des jeux vidéo aux mascottes, et ils fascinent à l'étranger. À l'époque Edo, qui a duré de 1603 à 1868, il était courant de se servir d'images de yokai comme des amulettes, explique à l'AFP Masanobu Kagawa, un spécialiste de ces créatures légendaires du musée d'histoire de la région de Hyogo, à l'ouest du Japon. En outre, Amabié n'était pas le seul yokai ni le plus ancien à avoir la réputation de protéger contre les épidémies, ajoute ce chercheur, ce qui ne l'empêche pas d'être aujourd'hui décliné de multiples façons au Japon. Son image inspire des gâteaux mignons, des bouquets de fleurs ou apparaît encore en arrière-fond de conférences en ligne. C'est la première fois que l'on fait des gâteaux sur le thème d'Amabié, déclare à l'AFP Hirohide Kato, un responsable d'une pâtisserie japonaise dans la région d'Akita au nord. Ils sont tellement populaires qu'ils sont tous vendus à midi. Une otarie d'un aquarium de Yokohama dans le sud-ouest de Tokyo, je vais y arriver, déjà célèbre au Japon pour ses talents en peinture et en calligraphie, a aussi commencé à être exercée depuis fin mars à dessiner Amabié. Voilà, nous pratiquons le dessin d'Amabié en espérant que la pandémie du nouveau coronavirus cessera bientôt, explique à l'AFP Sae Ishino, un gardien de l'otarie. Donc si vous ne savez pas trop à quoi ressemble Amabié, je vous avoue que j'aurais un peu de mal à vous la décrire. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble le personnage d'Elisabeth dans Gintama. Ben, vous prenez Elisabeth, vous lui rajoutez une longue perruque, vous lui mettez un bec un petit peu plus pointu, des griffes, et du coup le corps c'est des écailles. Voilà. Vous pouvez aller voir sur internet pour avoir une image un peu plus précise, mais en gros ça ressemble un peu à peu près à ça. Voilà. Du coup, on va s'écouter tout de suite une autre chanson, My Everything de Lee Min Ho, et on viendra juste après pour la chronique du volume 33 de Iganjima. Thank you. C'était Lee Min Ho avec la chanson My Everything. On passe maintenant à la chronique du volume 33 de Iganjima. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre horreur qui a été écrit par Matsumoto Koji et prépublié dans le Young Champion. La version japonaise est parue aux éditions Kodansha avec un total de 33 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue aux éditions Soleil avec également 33 tomes. Donc ce volume 33 est sorti le 30 novembre 2016 au prix de 7,99€. Le résumé de ce tome, Aki fait enfin face au redoutable Miyabi, qui fait régner la terreur depuis de trop nombreuses années sur l'île d'Iganjima. Mais le chemin pour arriver jusqu'à lui fut plus qu'éprouvant, il aura fallu affronter de nombreuses créatures, et notre héros est bien loin d'être au mieux de sa forme, d'autant que le seigneur des vampires possède des pouvoirs hors du commun. Mais Aki, animé par la soif de vengeance et la volonté de libérer enfin l'île, va puiser dans ses dernières forces pour tenter de terrasser le monstre qui n'est peut-être pas si invincible. Après de longs mois d'attente suite à la sortie du volume précédent, celle-ci est enfin récompensée par la sortie du dernier opus de Higanjima, un titre remarquable, bien que mal aimé en France, ayant subi une parution plus qu'erratique, qui en a sans doute découragé quelques-uns. Mais les plus persévérants ont donc pu profiter de cette conclusion qu'ils redoutaient de ne pas voir arriver. Enfin, conclusion, pas vraiment. Comme les tomes précédents qui sont sortis après bien des mois à les attendre, il s'agit pour la dernière fois d'un volume relié comprenant l'équivalent de 2 tomes. Et comme la série ne compte au Japon que 33 volumes, la deuxième partie de celui-ci comprend des histoires bonus. Donc peu importe, nous sommes ici en plein milieu de l'affrontement final. Un seul volume, c'est bien suffisant pour en terminer avec le récit. Nous dévorons donc les dernières pages qui nous séparent de la conclusion de l'histoire qu'on suit maintenant depuis plus de 11 ans. Pour ceux qui s'y sont intéressés dès la sortie du premier tome. Bon, 11 ans en 2016, hein, bien sûr. Nous assistons donc à une lutte dantesque où le désespoir face à la puissance de Miyabi et l'espoir d'enfin vaincre cette créature d'un autre temps se mélangent. On redoute pour nos héros, craignant un ultime retournement de situation. On attend une conclusion certes violente, mais peut-être en partie heureuse. Bref, on dévore les derniers chapitres en connaissant un subtil mélange d'angoisse et de totale satisfaction. Et puis, l'ultime retournement de situation a bien lieu. Comment est-ce possible? Comment un tel drame pouvait-il arriver à ce moment du récit? Et pourtant, il se produit. Miyabi lâche un fléau meurtrier et sans concession sur le Japon, ne laissant aucune chance de survie à l'humanité. Seul Aki et ses quelques compagnons encore en vie sont en mesure de stopper ça. Mais quand? Eh bien, dans la seconde saison de la série. Il s'agit donc là d'une fin de chapitre. Une page s'est bel et bien tournée. Sauf que nous ne verrons très probablement jamais cette seconde saison. Vu les difficultés qu'a rencontré Soleil pour publier la fin de cette série, vu les ventes peu flatteuses, on peine à croire que l'éditeur prenne le risque de publier la suite, et encore moins qu'un autre éditeur s'y intéresse. Et donc cette fin terriblement frustrante, n'apportant pas de conclusion à la lutte contre Miyabi, sera la seule que nous connaîtrons. On a beau savoir qu'il existe 2 autres saisons du manga de Matsumoto, on pouvait toujours espérer avoir droit à une véritable conclusion pour la première, qui existerait par elle-même. Eh bien, ce n'est pas le cas. On ressent alors une détresse non palpable, une frustration comme rarement on a pu connaître en tant que lecteur, et on est partagé entre tristesse et colère. En fin de tome, suite à cette conclusion qui n'en est pas vraiment une, alors qu'on espère fébrilement avoir quelques informations sur la suite, un teaser, peut-être même quelques chapitres bonus, on a finalement droit à un recueil d'histoires courtes de l'auteur. 3 qui sont des histoires bonus d'Higanjima écrites par l'auteur pour des occasions spécifiques, et en toute fin, on retrouve sa toute première histoire, n'ayant rien à voir avec son titre fleuve. Les 3 histoires bonus centrées sur Atsushi, personnage apparemment cher au cœur de Matsumoto, collent parfaitement à la trame de la série, elles se seraient parfaitement intégrées au récit. Par contre, son tout premier essai, bien qu'ayant reçu un prix, nous laisse quelque peu perplexe. On sent un potentiel certain, mais cela reste tout de même très particulier. C'est surtout qu'après un titre comme Higanjima, et surtout après une telle frustration de ne pas avoir de fin, nous ne sommes peut-être pas dans les meilleures conditions pour découvrir ce récit. En tant que tel, l'ultime volume de la série est passionnant. On ne décroche pas une seule seconde, mais la frustration qu'il nous impose sur les toutes dernières pages est trop grande pour ne pas être prise en compte sur le plaisir de lecture du volume. On s'est rarement senti aussi con à la fin d'une série qu'on appréciait autant. Quoi qu'il en soit, merci à Soleil pour les efforts fournis autour de ce titre, même si on a pu râler au vu du rythme de parution quelque peu catastrophique. Jamais l'éditeur n'a lâché la série et a permis donc au lecteur de pouvoir aller jusqu'au bout. Alors certes, aller au bout pour connaître une petite déception, mais quand même aller au bout. Donc encore une fois, merci à Soleil et au respect envers les lecteurs dont ils ont fait preuve. Voilà, Higanjima a retrouvé donc en 33 volumes aux éditions Soleil. On va s'écouter tout de suite la chanson thème du film justement Higanjima, Inochi no Zenmai, interprété par 9mm Parabellum Bullet, et on reviendra juste après pour une actualité au Japon.
Sobre
Donc c'était 9mm Parabellum Bullet avec la chanson Inochin Zenmai qui a servi de chanson thème pour le film Iganjima. On passe maintenant à une actualité au Japon. Après avoir annoncé lundi 25 mai la levée de l'état d'urgence dans les dernières régions de l'archipel où il était encore en vigueur, notamment à Tokyo, le Japon veut inciter sa population à partir en vacances cet été, mais pas à l'étranger. Dans le cadre d'une mesure qui pourrait entrer en vigueur d'ici quelques mois, le gouvernement nippon devrait fournir des réductions aux voyageurs locaux. L'objectif, relancer le secteur du tourisme, particulièrement à la peine, du fait de la pandémie de coronavirus. D'après l'agence de presse Kyodo, cette initiative permettra aux touristes d'obtenir jusqu'à 20 000 yens par jour, soit environ 169 euros. C'est quand même pas mal par jour. Cette aide couvrira la moitié du coût des voyages répartis par une combinaison de réductions importantes et de bons à utiliser dans les restaurants et magasins à proximité. L'initiative devrait débuter dès la fin du mois de juillet, mais ne devrait toutefois s'appliquer qu'aux touristes ayant obtenu des réservations par le biais d'agences de voyage japonaises ou qui se sont directement entretenus avec les ryokan, les auberges traditionnelles du pays. Dans un tweet partagé mercredi 27 mai, l'agence du tourisme du Japon déclare qu'elles serviront à stimuler la demande de voyage à l'intérieur du pays. Donc ce genre d'initiative est à destination des individus résidant au Japon et elles ne seront donc pas accessibles aux touristes étrangers. Voilà, si vous aviez prévu de profiter de ces petits sous pour partir là-bas, c'est foutu. Selon des données du Guardian, le nombre de visiteurs étrangers a diminué de plus de 99% en avril au Japon. Pandémie de coronavirus oblige. Les voyages intraterritoriaux ont également été considérablement réduits par l'état d'urgence instauré dans le pays depuis début avril. Les subventions pour épauler le secteur du tourisme font partie d'un deuxième budget extraordinaire de près de 271,5 milliards d'euros, approuvé mercredi par le gouvernement du Premier ministre Shinzo Abe. L'exécutif nippon espérait par ailleurs un afflux important de touristes étrangers cet été, notamment grâce aux Jeux Olympiques de Tokyo, mais la pandémie de Covid-19 a contraint l'événement à un report en 2021. De quoi permettre au secteur touristique local de sauver les meubles peut-être. Le Japon recense aujourd'hui 886 décès sur 16 804 cas d'infection depuis le début de la pandémie de Covid-19. Voilà, on va pouvoir tout de suite continuer avec mes petits Sud-Coréens. On va s'écouter Lee Seung-gi avec la chanson Nunmul en featuring avec Chaeyoung et on reviendra juste après pour une news musicale. J'espère que vous avez bien bougé. C'était Lee Seung-gi avec la chanson Nunmul en featuring avec Chaeyoung. On passe maintenant à la news musicale pour finir cette émission. Le groupe de visual metalcore Nocturnal Bloodlust avait eu une année 2019 tumultueuse, commençant par l'arrivée d'un nouveau guitariste, Lin, en avril, suivi de son arrestation en août et qui s'est conclue par son départ du groupe en septembre. Voilà. Merci, au revoir. La formation n'avait plus donné de nouvelles depuis. Or, nous apprenons qu'un nouveau single, Life is Once, sortira le... Il est déjà sorti, je suis un peu en retard. Est sorti le 29 mai à l'international. Voilà, il y a quelques jours. Bien que les fans se demandent qui est le nouveau guitariste du groupe, Nocturnal Bloodlust leur demande de d'abord écouter ce nouveau titre. D'autres annonces viendront par la suite. Les liens de téléchargement et de streaming via iTunes et Apple Music sont disponibles sur Internet. Le morceau sera ensuite distribué sur les autres plateformes musicales à compter du 8 juin. Un extrait de Life is Once est par ailleurs disponible sur Internet si vous souhaitez l'écouter. Voilà, donc pour terminer l'émission, on s'écoutera Macho of the World de Nocturnal Bloodlust. Demain matin, vous retrouverez Philippe pour l'émission Bonjour de 10h à 11h30. Et moi, vous pourrez, a priori, me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, ça sera comme d'habitude lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!